Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Sybille Clamins. Porter son regard cette semaine sur l'éloge de l'imaginaire du fantaisiste décorateur, peintre et sculpteur milanais Piero Fornasetti, qui affirmait « Tout le monde le dit à présent, le moderne est mort-né, le rationnel est futile, le salut est dans la forme. Belle révélation, le salut est dans l'imagination, serais-je ministre que je créerais immédiatement en Italie cent écoles de l'imagination ?» Comédien, auteur, humoriste, metteur en scène, chanteur, rêveur et parolier, notre invité qui dansait comme un fou pendant le générique, je vous le dis, s'apprête à faire son entrée dans l'édition 2023 du Petit Larousse illustré qui fait l'éloge de son univers empreint d'une fantaisie, d'une moquerie tendre. Il vient d'imaginer avec Gérard Mordia et Antoine Salaire le spectacle « Tous les marins sont des chanteurs » qu'il joue en ce moment avec son équipage jusqu'au 3 juillet au Théâtre du Rond-Point à Paris et le 16 juillet au Francofolie de La Rochelle. Un disque et un livre rendent également hommage aux héros bretons du spectacle. À signaler aussi avec Yolande Moreau l'album Brassens dans le texte paru chez Universal en octobre dernier et le recueil de chroniques Ça va aller chez De Noël qui reprend des billets que le loustique a distillé sur la chaîne. Le loustique en question sera également à l'affiche des prochains films de la SUS nommé Yolande Moreau et de Michel Leclerc.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour François Morel.
Bonjour. Je peux corriger un truc ?
À tout.
Je vais pas jouer ce spectacle-là au Francofolie le 16 juillet.
Ah.
Je vais faire autre chose.
Ah oui ?
Je vais chanter mes chansons.
D'accord.
Alors, il y en aura peut-être certaines du spectacle.
Ah.
Tous les marins sont des chanteurs. Mais j'aurai pas la conférence. J'aurai pas le conférencier.
Ah oui.
Et je veux chanter des trucs que, parce qu'en fait, ça fait un moment que je chante. Donc, je commence à avoir mon petit répertoire.
Bah, je le note donc, tout de suite pour pas dire de bêtises à nouveau quand je vais reparler de ça dans le générique de fin.
S'il vous plaît.
J'ai dévoilé le suspense, mais bon.
Oh là là.
Alors, François Morel, je vous pose tout de même la première question. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Oui.
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 Sans hésitation.
Oui.
Ah bah d'accord.
Bah oui. Bah oui, sinon j'aurais pas connu tout ça.
Ah.
Ouais, mais en général, par exemple, je suis content de me lever le matin.
Alors justement, on va y venir dans exactement une minute, mais avant ça, comment se passe la cohabitation avec vous-même, même si j'ai un indice avec ce que vous venez de dire?
Bah ça va, je m'entends à peu près bien.
Ah oui. Ouais. Ça a toujours été le cas?
Globalement, oui, à peu près, ouais.
D'accord.
Ça va.
Ouais. D'accord. Bon, d'accord.
Enfin, des fois, j'aime moins mieux être mieux, certes,
oui.
Mais j'essaie de m'améliorer. Non, ça va.
Alors, vous faites partie des gens qui ont envie de se lever le matin pour boire un café et pour la réalisation de projets en cours. Vous faites des chroniques, des recueils, des albums, des films, des livres, des spectacles, plein de collaborations. Vous est-il déjà arrivé de traverser des périodes vides ?
Vide, pas complètement vide, non, je crois pas. Non, j'ai toujours des trucs à faire. Ouais.
Et vous est-il arrivé de ne pas avoir de désir pour les nouveaux projets?
Non.
Waouh.
Mais en vrai, je crois pas, non.
Mais c'est formidable.
Mais en même temps, parce que je suis pas très sûr de moi.
Ah bon?
Ouais, curieusement.
Mais en quoi, curieusement, en quoi ça vous aide?
Eh ben parce que à chaque fois que je fais un spectacle, je me dis je vais peut-être pas y arriver. Enfin, j'ai un truc où je me dis c'est pas gagné quoi. J'essaie à chaque fois de faire un spectacle qui va pas ressembler au précédent. Et souvent c'est ce qu'on me dit, on me dit tiens c'était un peu casse-gueule ton projet, puis finalement ça va, ça passe. Donc à chaque fois je fais des trucs où je me dis j'ai pas l'impression d'avoir une grande technique. Par exemple, même pour les chroniques du vendredi matin, je me dis pas, les chroniques de France Inter, je sais les faire. En fait, à chaque fois, j'ai souvent des moments le lundi ou le mardi où je dis, voilà, j'ai un truc à faire pour vendredi et je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir raconter. Et cette inquiétude-là, finalement, elle est pas mal.
Oui, parce que vous n'êtes jamais lassé, rien n'est acquis.
Non, je suis vraiment un poisson rouge, quoi, tous les matins. Ah, tiens, j'ai fait la fustière, je suis surpris. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi, enfin, j'ai réussi plus ou moins bien, quand même.
En dehors des films dans lesquels vous jouez, tous les autres projets sont personnels, même quand ce sont des collaborations. Est-ce que vous iriez voir, si ce n'était pas vous, vos spectacles? Est-ce que vous liriez? Est-ce que vous seriez votre auditeur, votre spectateur, votre lecteur?
Comment savoir? Moi, je pense que ça fait quand même au moins une trentaine d'années, même peut-être plus, que je crois que je serais intéressé par les spectacles que je fais. Oui, je crois, franchement. Enfin, en tout cas, quand... Je sais pas. Depuis, en gros, Jérôme Deschamps. J'allais voir les spectacles de Jérôme et Macha avant d'y participer. Et à partir du moment où j'ai fait ces spectacles-là et tous les autres spectacles que j'ai fait après, je serais forcément allé les voir si j'étais pas dedans, quoi. Oui, je crois.
Voilà. Donc vous vous sentez à votre place.
Ouais, j'ai une chance inouïe. Je trouve quand je vois parfois des camarades à moi sur des affiches. Et où je me dis, ah, qu'est-ce que j'aurais pas envie de jouer ça? Parce que c'est le théâtre, c'est tous les soirs. Donc si on n'est pas absolument persuadé que ce qu'on a à y faire est intéressant, on est malheureux, quoi. Et moi, je fais un métier où je suis heureux de le faire, et pas seulement de faire mon métier parce que j'aime bien être sur scène, mais parce qu'à chaque fois, les projets auxquels je participe, ce sont des projets qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent, mais profondément, oui.
Bah, c'est réjouissant.
Bah, c'est comme
que vous
ça.
L'avez provoqué, ça. Ouais. Bon, dans un instant, on va aborder avec vous, François Morel, l'écoute, la légèreté, Sempé, Brassens, De Vos, Martin Eden, Marcus Retz, William Scheller et Micheline Dax. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
D'abrubus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de freins, de tout sexe, seigneurs de châteaux renversés, chers à des dalles. Desquels j'ai hérité de tout et que dalle, tout, tout, que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout. Je viens d'une longue lignée de zéro. Sentimentaux, sanguins, charmeurs de serpents, figures locales, desquelles j'ai hérité de tout, que dalle, tout, tout, que dalle, tout.
Morceau du doué Bertrand Belin, Que dalle tout, dans L'embellie sur France Inter. Nous sommes avec François Morel, à qui j'ai demandé ce qu'il aimerait changer dans la société. Vous recommandez un peu plus de civilité, d'écoute, un peu plus de doute. En d'autres termes, plus d'égard, d'attention à l'autre, de générosité, d'humilité.
Oui.
Mais non, mais parce que oui, mais c'est intéressant. Non, mais d'où pensez-vous que vienne ce manque de civilité?
Je sais pas. Mes camarades se moquent de moi parce qu'en fait, je suis un type plutôt civil dans la vie, sauf que par exemple quand je prends le TGV, il y a toujours un moment où je me mets en rage parce que les gens répondent au téléphone à côté de moi et donc j'engueule. Pendant toute une période, j'ai à chaque fois engueulé une personne dans le train, dans le TGV, et finalement j'aimerais mieux ne pas engueuler des gens. Moi j'aime mieux les rapports courtois, gentils, mais ça m'agace trop parce que moi quand j'ai un coup de fil, je vais sur la plateforme pour déranger le moins de gens possible. Donc je demande à ce que les gens fassent la même chose. Et finalement, pas tant que ça. Et puis je remarque vraiment tous les âges, tous les sexes. N'importe qui répond comme ça en se disant « je suis seul au monde et les gens autour de moi n'existent pas ». Ça m'agace, oui. Mais enfin bon, c'est comme ça.
C'est un truc de vieux qui m'agace aussi.
Je sais que Romain Lemire, avec qui je suis en tournée, puisqu'il est avec moi sur le spectacle De Vos, et là aussi, il est un peu terrorisé de voyager avec moi, parce qu'il sait qu'à un moment donné, je vais hurler.
Pour revenir au fait que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de doutes, François Morel, vous ne pensez pas que la plupart d'entre nous, on se convainc de savoir des choses, parce qu'en fait, c'est terrifiant de ne pas savoir.
Ah oui.
Mais on ne sait jamais, finalement. Rien, il n'y a pas de...
J'ai un métier où je peux exprimer le doute, oui. Et même donc mais par exemple pour ça je pourrais jamais faire de politique et affirmer des choses, parce que si j'ai affirmé un truc, j'aurais aussitôt envie de dire le contraire ou d'interroger mon affirmation,
alors que peut-être que ce serait ça un bon homme politique, justement, quelqu'un qui enfin réfléchit et remet en question.
Mais les gens n'auraient pas envie de voter pour lui, quoi.
Hélas.
Ouais. On est déçus. Hein.
Ah ouais, on est
déçus. Ah zut, voilà.
Pourquoi est-il si dur d'aimer véritablement son prochain?
En même temps, il y a beaucoup de gens qui s'aiment, et il y a beaucoup... Non, mais je ne sais pas pourquoi ça s'exprime quand on est en collectivité comme ça. Mais il y a aussi... je suis aussi sensible à cette agressivité, là aussi qu'à la gentillesse. Et en fait, je suis aussi sensible à la gentillesse. Il y a plein de gens gentils aussi qu'on croise comme ça, et qui vous laissent passer, qui vous font un petit signe de la main quand on est en voiture et tout ça. Et à chaque fois, ça me met autant de bonne humeur que l'incivilité me met en rage. Donc je suis extrêmement sensible à la façon dont on se croise dans la rue, dans le TGV, dans partout, quoi.
François Morel, je vous ai interrogé sur vos engagements. Vous dites vous impliquer beaucoup sur scène pour apporter un peu de douceur, de consolation, mais ne pas vous impliquer dans un mouvement politique parce que vous ne savez pas comment améliorer la marche du monde. Par ailleurs, vous essayez ponctuellement d'être utile quand on vous sollicite. Vous accompagnez le mouvement Partage dans un programme d'éducation pour les enfants d'Haïti. Vous leur avez d'ailleurs donné la parole sur l'antenne à ces enfants dans votre chronique du 2 juillet dernier. Il y avait un poème en créole haïtien repris dans votre recueil « Ça va aller ». Ça donne son titre au recueil d'ailleurs, je crois. « Ça va aller ».
Peut-être que je leur avais demandé de finir par « ça va aller ».
Oui. Ouais. Quel est le rôle de l'association Partage?
C'est d'aider des enfants qui vivent dans des pays impossibles, comme par exemple les Haïtiens. Je suis des fois en relation avec des petits Haïtiens qui me remercient trop. À chaque fois, je leur dis « arrêtez de perdre du temps à me remercier, c'est pas grave, moi. » Et donc, à me présenter des petites choses qu'ils écrivent, qu'ils jouent, et je suis un peu en relation avec eux. C'est aider, venir en aide à des gens qui pourraient avoir l'impression d'être au bout du monde et abandonnés de tous. Donc, leur dire qu'ils font partie de l'humanité, qu'on a besoin d'eux.
Vous aviez commencé une de vos chroniques avec cette phrase... habile et réutilisable en toutes circonstances, des efforts ont été faits, des efforts restent à faire.
Ouais, ça pourrait servir, ouais.
As-tu connu la cancalaise que je croisais parfois le soir? À la pointe des roches noires, elle se prénommait Thérèse.
As-tu connu Lacan, Calais, à qui je n'osais pas parler, tellement j'étais impressionné, j'avais 15 ans, peut-être 16. Lacan Calaise est aujourd'hui celle qui chante et me sourit et qui m'apaise et qui m'enchante.
On vous entend chanter, François Morel, un morceau de votre spectacle Tous les marins sont des chanteurs, Lacan Calaise, d'Yves-Marie Le Guilvinec, poète breton disparu en 1900, que vous auriez découvert lors d'un vide-grenier à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine, dans une brochure de 1894 intitulée Lacan Calaise.
Exactement.
Où figuraient ses chansons.
Oui, Lacan Calaise était la chanson que chantait mon oncle Octave aux communions, au mariage, etc.
Bah oui, et vous êtes tombé sur cette chanson.
Incroyable, non ?
Incroyable. Et alors, bon, dans cette émission, nous n'œuvrons pas à la promotion, à moins qu'elle soit existentielle. Alors ouais. Parlons de votre vie, François Morel, au cours de laquelle vous aimeriez accomplir de beaux spectacles qui rendraient le monde plus léger. Il y avait un spectacle d'ailleurs qui s'appelait La Vie, titre provisoire.
Ouais.
Très joli titre. La fin du monde est pour dimanche, je n'espère pas. Instant critique, c'est très métaphysique tous ces titres.
Vous trouvez ?
Oui.
Ouais. Ça a plusieurs sens. La Vie, titre provisoire,
bien sûr.
C'est pas mal. Ouais. Je sais pas, des fois les titres viennent tout seuls. Par exemple, J'ai des doutes, il est venu immédiatement. Comment tu vas appeler ça ?
Pour De Vos.
Ouais. Mais parce que j'aurais pu choisir la raison du plus fou, je sais pas quoi. D'ailleurs, on m'a proposé ça. Et je dis, oh, non, trop de sens.
Oui, on n'aime pas le sens.
Et voilà, on
c'est louche.
Ou alors très ouvert, quoi.
Vous traitez les sujets graves en filigrane dans vos spectacles ?
Vous trouvez ?
Oui, je trouve.
Ben, je crois.
Par exemple, dans Tous les marins sont des chanteurs, qui est en apparence très joyeux et tout ça, il y a quand même des moments de mélancolie, il y a des morceaux où on sent que ça pourrait s'appliquer à plein de choses sociales en ce moment qui posent problème,
mais
de rien.
En fait, parce que comme vous me disiez, est-ce que vous iriez voir vos spectacles si vous ne jouiez pas dedans ? Eh ben, je crois que oui, parce que en fait, ce que j'aime bien, c'est le mélange des genres. Et si on ne fait que rire avec fantaisie, rigolade, tout ça et légèreté, c'est bien, mais il va me manquer un truc. Et si on met que du sens et de la gravité, il va me manquer aussi un truc. Donc moi, j'aime bien les comédies italiennes, j'aime bien quand ça se mélange, quand tout d'un coup on est surpris, quand on raconte une histoire un peu drôle et que juste après on ait le cœur serré, parce que ce que j'ai aimé, c'était toujours ça, quoi. C'était quand j'ai vu Zouk sur scène, il y avait des éclats de rire incroyables et en même temps
c'était dérangeant.
C'était ouais, mais c'était beau, c'était grand, c'était et elle parlait profondément de l'humanité. Je l'ai rencontrée il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et c'est marrant parce que je lui avais raconté le spectacle et elle m'a dit ouais, c'est bien ce que tu dis, mais c'était pas du tout mon spectacle. C'est-à-dire que 25 ans ou 30 ans après, j'ai raconté le spectacle dont je me souvenais et je me l'étais recréé dans ma tête. Mais en même temps, les impressions que j'avais eues de ce spectacle-là, ils sont restées en moi.
En parlant de spectacle, il va y avoir un spectacle avec votre fils à Courbevoie le 18 juin.
Le mot spectacle est...
Une lecture.
Ouais, c'est une lecture.
D'accord.
C'est une lecture un peu améliorée.
D'accord.
Par mon fils.
François Morel, êtes-vous un être léger à la ville ?
Pas toujours. Maintenant, oui. Quand je suis dans le TGV et que j'engueule les gens... Parce que...
c'est pas de la pesanteur ou de la lourdeur, ça. Ou de la gravité.
Ah ouais. Alors bon, non, mais sinon, ça va.
C'est un coup
de sang. Oui, mais si les coups de sang sont trop répétés, ça pourrait être lourd. J'ai l'impression que ça va. Je suis plutôt léger. Peut-être que quand je suis de mauvaise humeur, ça peut durer un peu. Ça...
Un ou deux ans ?
Non. Pas un ou deux ans, mais plusieurs heures.
Souffrez-vous de la pesanteur des choses ?
Oui, comme tout le monde, non ? Je sais pas.
Oui, il y en a qui sont plus ou moins perméables.
En tout cas, ce que je recherche, c'est... J'aime bien la fluidité, la légèreté, en tout cas quand je fais des spectacles, ou même quand j'essaie d'écrire des choses, j'essaie de faire que ce soit léger, fluide, mais ça veut pas dire que je réussis toujours.
je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu « J'ai raté toutes sortes d'émissions dans lesquelles j'étais invité, c'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est pas faux ».
Ça, c'est vrai.
Bah, ça se passe bien.
Oui, hein, comment ?
Ça se passe bien pour le moment.
Ça va, là ?
Oui.
Bon, vous êtes sympathique.
Non, c'est
et
vrai.
Souriante.
Oui.
Et non, mais pourquoi ? Parce que... Non, mais ça peut arriver. Des fois, j'ai pas l'impression d'être un bon professionnel, justement, dans cet exercice-là. Parce que des fois, on peut attendre peut-être des choses que je ne sais pas donner au moment où on me les réclame. Donc, mais quand on est dans une relation normale où on se parle, quand une émission ressemble à une conversation, j'adore. Mais c'est pas toujours le cas. Quand je sors d'un spectacle, en général, je suis plutôt content. De moi, j'ai l'impression d'avoir fait bien mon métier parce que je le fais toujours avec plaisir. Souvent, quand je sors d'une émission, je suis hyper frustré en me disant mais qu'est-ce que je suis mauvais, et qu'est-ce que j'ai rien à dire, enfin voilà. Donc, des fois, j'admire les gens qui ont décidé de ne faire aucune promotion, mais je n'ai pas une notoriété qui me permet de faire ça.
C'est-à-dire ?
Bah, je pense qu'il y a des gens qui refusent tout et qui sont des mythes parce que
Michel Houellebecq.
Ouais, ou des gens comme ça, ouais, c'est bien.
Philippe Kadic.
Ouais, pas mal.
Pas mal.
Ouais.
Le morceau Papa Power de la gracieuse Cat Power dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de François Morel.
Il m'arrivait d'écouter de la musique en dessinant quand j'avais une chose qui n'était pas trop difficile à faire. Maintenant c'est fini, je n'écoute plus de musique en même temps parce que je suis un obsédé de l'ambiance et de la musique, ce qui fait que je travaille toujours avec des sons. Quand je dessine un petit bonhomme qui marche, je voudrais entendre les pas. Et je m'évertue à donner un certain sens au dessin de façon à ce qu'on comprenne qu'il marche ou vite ou lentement, qu'il se promène.
Le dessinateur Jean-Jacques Sempé dans l'émission L'humeur vagabonde de Kathleen Evin sur France Inter en 2001 au micro de Lucie Hakoun. Il fait partie de votre équipement existentiel, François Morel. Il partage avec vous une fantaisie tendre et un éditeur de Noël. Et vous avez joué dans l'une des adaptations du Petit Nicolas, le trésor du Petit Nicolas de Julien Rapneau. Voilà, c'est tout, c'est la fin de cette émission. Merci.
Merci. J'adore Sempé. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'accompagne. J'adore son trait, j'adore les dessinateurs d'une manière générale. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'aimerais, c'est-à-dire juste par juste un trait raconter l'univers entier, quoi. C'est bouleversant à chaque fois un dessin de Sempé parce que c'est toujours le rapport entre nos petite vie et l'existence et le monde qui est trop grand pour nous. Enfin, il y a toujours une histoire d'échelle dans les dessins de Sempé. Et puis parce que à partir du moment où on s'est plongé dans les livres et dans les dessins de Sempé, après, dans la vie, on peut voir des Sempé comme ça. Il y a plein de Sempé qui ont une attitude, un monsieur sur une moto, sur un vélo, une dame qui attend son bus. On se dit, ah tiens, c'est joli comme un Sempé. Et des fois, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est-à-dire, moi j'aime bien les œuvres aussi qui sont un peu mystérieuses. On ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi ça nous touche, on ne sait pas très bien. Tout simplement peut-être parce que ça nous évoque la vie, quoi. Une fois, j'ai rencontré plusieurs fois, grâce à De Noël d'ailleurs, grâce à la maison d'édition, j'ai rencontré. Et puis c'est toujours quelqu'un aussi qui sait pas s'il va réussir à refaire un autre dessin, quoi. Et voilà, j'ai fait des trucs, mais et je lui disais, mais nous dans la vie, autant dans les dessins de Sempé, on reconnaît la vie, et dans la vie on reconnaît des dessins de Sempé. Et je lui avais raconté un truc que m'avait raconté mon copain Olivier Saladin. Et je vais raconter cette petite anecdote comme ça rigolote où Olivier s'est dit ça me fait penser à Sempé, et je vais raconter, et il en a fait un dessin quelques semaines plus tard dans Paris Match qu'on retrouve. C'était deux petites dames qui étaient au musée André Malraux du Havre, deux petites dames un peu emmitouflées, un peu âgées, qui parlaient doucement et qui regardaient une peinture de Boudin, Eugène Boudin. Et l'une dit à l'autre, c'est beaucoup trop serein pour moi. Ouais. Je lui ai raconté ça, il a éclaté de rire, et c'était émouvant quelques semaines plus tard de découvrir son dessin dans Paris Match.
Dans les artistes qui vous ont aidé à faire face au monde, il y a aussi cet homme.
Vous n'avez pas eu d'enfant ?
Non. Non, ça je m'en réjouis, je tenais à ce que... Mon père non plus ne voulait pas d'enfant d'ailleurs. Ma petite amie actuelle, la mère Pupchon, que j'ai depuis 1947, je l'ai connue en 47, j'avais 26 ans. Bon, elle peut pas avoir d'enfant. Alors donc, la question est résolue. Je pouvais pas faire un enfant à une autre. Je pouvais le faire que par accident. Mais je pouvais pas décider de faire un enfant avec une autre femme. Et je pense qu'en faisant mes chansons, j'ai plus à porter quand même qu'en faisant un enfant, quoi. Là, je me vante peut-être, bien sûr, enfin...
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, médisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutrent et les gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard,
le morceau « Le vent » de Georges Brassens, qu'on vient d'entendre interviewé par Philippe Nemo en 1979. François Morel, vous avez fait un spectacle hommage à Brassens pour son centenaire en 2021. Et vous avez fait l'album « Brassens dans le texte » avec Yolande Moreau. Mmh. Quel est votre rapport à Georges Brassens ? On entend son humilité dans l'archive qu'on a passé. C'est un trait en commun avec les gens que vous évoquez.
Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un compagnon, quoi. C'est, je sais pas très bien. C'est, je crois aussi c'est le goût du travail bien fait. C'est-à-dire sa modestie, elle est dans l'exigence aussi. C'est-à-dire comme il se dit, moi, je suis pas forcément un type passionnant. Alors je vais essayer de travailler à fond ce que je vais présenter au public pour pas le décevoir. Donc il y a une humilité en même temps une exigence au même niveau. J'aime tout moi chez lui. J'aime l'œuvre et puis j'aime le bonhomme. À chaque fois que je l'entends, je suis ému. Je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé le connaître. C'est peut-être mieux de pas l'avoir connu parce que peut-être je l'aurais déçu.
Vous avez aussi une modestie qui transparaît quand vous vous exprimez, François Morel. J'aimerais qu'on évoque votre rapport au chant. Vous écrivez des chansons depuis l'adolescence, et c'est la rencontre avec un compositeur qui va vous aider à passer le cap et à composer, à interpréter vos morceaux.
Je suis resté plein d'années où j'écrivais pas du tout de chansons. J'ai dû essayer d'écrire des chansons quand j'avais 17-18 ans parce qu'on avait des, j'avais des copains qui en écrivaient. Yves-Marie Lecomte écrivait des chansons à cette époque-là. C'était un copain, on avait à peu près le même âge, il était un peu plus âgé. J'aimais bien ses chansons et j'essayais d'en écrire moi-même, mais je savais pas jouer de la guitare et ça me faisait trop mal au bout des doigts. Donc je me suis dit, c'est pas pour moi, donc faisons comédien. Et puis après, j'ai toujours aimé ça, la chanson, mais je trouve qu'il y a un rapport aussi avec le dessin d'humour, c'est-à-dire un trait, trois mots et tout d'un coup, c'est bouleversant, on ne sait pas trop d'où ça vient, et moi j'aime bien la simplicité, donc je trouve qu'il y a une simplicité dans le dessin, il y a une simplicité aussi dans la chanson, il y a une simplicité dans certains spectacles de par exemple de Peter Brook, je pensais à ça, dans La Tempête, il raconte juste une tempête avec un morceau de bambou, et quand la tête est au-dessus du bambou, on comprend qu'il va peut-être réussir à se sauver, et quand il est en dessous du bambou, on se dit qu'il va se noyer. Enfin tout ça, c'est-à-dire comment raconter le monde avec presque rien. Et dans la chanson, dans le dessin d'humour, et dans les mises en scène des grands metteurs en scène qui me plaisent beaucoup, il y a cette simplicité pour un maximum d'émotions et de résultats intérieurs.
Autre maître de la forme brève.
Je pense que si une autre vie existait, si elle était possible, on n'aurait pas une telle imagination qui prête à confusion. La force de l'imagination, c'est quelque chose d'inouï. On n'aurait pas ce phénomène du rire, qui est un phénomène essentiellement humain, qui est quand même une espèce de une possibilité de se libérer en se moquant.
Raymond Devos, en 1975, dans Radioscopie de Jacques Chancel. François Morel, vous avez interprété ces textes dans le spectacle J'ai des doutes. Et dans le texte de présentation, vous disiez « il ne ressemblait à personne ». Un grain de folie capable d'enrayer la mécanique bien huilée de la logique de la réalité du quotidien.
Ouais, c'est-à-dire, oui, il y avait une grande ambition au service d'une chose très légère qui s'appelle le musical. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que j'aime bien le... C'est 75, ça. Ça va ouais. Encore, c'est bien, ça.
Je trouve qu'à partir de quand ça devient critique?
Non, ça devient pas critique. Mais parce que j'aime beaucoup l'homme et tout ça, mais je trouve qu'on l'a un petit peu chancelisé. On l'a un peu, on en a fait parfois un peu le commandant Cousteau de l'humour.
C'est pour ça que j'ai pas voulu passer de sketchs qu'on entend toujours, même s'ils sont brillants, c'est parce qu'on les a tellement entendus ouais, sur la ouais. chaîne. Je voulais qu'on entende une interview où il parle de choses plus personnelles.
Mais c'est joli là, ce qu'il dit là, et c'est assez simple. Mais oui, là aussi, il y avait une espèce de simplicité dans les sketchs des années 50, 60, 70, et que je trouve qu'il a un peu perdu. Mais c'est des débats que j'avais justement avec Romain Lemire, qui lui aimait beaucoup certains derniers textes. Et moi, ça me touche moins parce que je trouve ça un peu plus prétentieux que le type qui est devant la mère et qui est désespérée parce qu'on l'a démontée. Je trouve qu'il y a une simplicité, une évidence que je trouve encore plus belle. Mais c'était un merveilleux homme de musical surtout, et qui était d'une grande générosité sur scène. Et c'est ça que surtout je garde de lui quand je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu à Caen, je l'ai vu à l'Olympia, etc. Et c'était, il se servait de tout ce que la scène pouvait lui offrir. pour faire un spectacle d'une générosité où il nous prenait par la main, il nous entraînait dans l'imaginaire et c'était un moment de grâce.
Il était musicien, acteur et auteur de romans comme vous, François Morel. Ses titres, ça aurait pu être vos titres. Les 40e délirants, une chenille nommée Vanessa, sans titre de noblesse.
Je sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être que je me... En tout cas, ça fait partie des gens qui m'ont inspiré, évidemment.
Il se hasarda plein de terreur. Ses bras ballants pendaient lourdement à ses côtés. Il ne savait qu'en faire, et lorsque, dans un instant d'épouvante, l'un d'eux faillit effleurer les livres sur la table, il fit un écart comme un cheval effarouché, évitant de justesse le tabouret du piano. En observant le pas tranquille de l'autre devant lui, il se rendit compte, pour la première fois, qu'il avait une façon de marcher différente de celle des autres hommes. Il eut soudain honte de sa démarche de rustaud.
Denis Podalydès lit un extrait du roman Martin Eden de Jack London pour les éditions Audible. C'est le livre que vous avez le plus offert autour de vous, François Morel. Puisque je vous ai demandé un livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, mais vous dites ne pas penser qu'on puisse être armé avec un livre. Martin Eden, publié en 1907 et 8 en feuilleton dans un mensuel californien, c'est sublime. Moi j'ai eu une claque en le lisant également.
Ouais,
c'est
ouais.
Sublime. On pleure, on rit, on est exalté, on est désespéré.
Oui, et puis il y a vraiment un truc sur le rapport de classe qui est incroyable.
Quoi. Pouvez-vous rappeler l'histoire ? C'est un marin pauvre.
C'est un marin pauvre qui s'ouvre sur le quai de la gare. C'est un docker qui est sur un quai et qui voit un type se faire agresser et donc qui va faire le coup de poing pour sauver ce type qui se fait agresser. Et le type, pour le remercier, lui dit venez prendre le thé chez moi, demain. Et donc il s'y rend et il tombe amoureux de sa sœur et sa sœur a envie et donc il est ébloui par ce monde qui n'est pas le sien.
Ce sont des bourgeois.
Et donc ce sont des bourgeois, oui. Et la jeune femme dont il tombe amoureux va essayer de lui faire monter dans la hiérarchie, de le faire quelqu'un d'autre. Mais en même temps, elle n'a pas envie qu'il soit au-dessus d'elle. Elle a envie quand même que ça reste un ouvrier. Donc c'est assez ambigu et moi, ça m'a évoqué plein de... Moi, je viens d'un milieu modeste. Donc,
votre père était cheminot.
Ouais, pas d'un milieu pauvre, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, j'ai été dans des milieux plus bourgeois où j'ai ressenti parfois une sorte de condescendance, en tout cas que j'essaie de ne pas avoir avec les autres.
Et est-ce que vous vous identifiez à ce héros Martin Eden, François Morel ? Est-ce que parfois il vous est arrivé de vouloir façonner un personnage plus élevé dans l'échelle sociale, prendre les codes des autres, d'avoir
honte ?
Pas
tout à fait, je crois pas tout à fait. Moi, parce qu'en même temps, je m'étais dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je m'étais dit que mon histoire, moi, c'était la mienne et qu'elle était... personne ne pouvait me l'apprendre et que même je me suis toujours même servi de mes faiblesses ou de mes incapacités pour exister. Je me suis dit que ça allait être intéressant parce que c'était à moi, quoi. L'accent que j'ai pu prendre dans les déchiens, je l'ai pris parfois même avant dans des spectacles... Parce que c'était un accent qui était vraiment du terroir et qui était vrai, quoi. Et à côté de ceux qui essayaient de jouer les paysans dans Molière ou Marivaux, et enfin quand des gens du 6e arrondissement essaient de prendre un accent, c'est raté, quoi. J'ai vu un acteur qui avait pris un accent du Calvados une fois, c'était très très mauvais parce que ça ressemblait à rien. Et c'était l'idée que se faisaient les bourgeois de l'accent paysan, mais c'était pas le vrai accent qu'on entend à la campagne quand on a passé un peu du temps dans les champs, quoi.
Vous avez fait des études de lettres, je crois. Est-ce que vous lisez beaucoup ?
Ça dépend, c'est par période.
Parce que ça, on vous en fait rarement parler, François Morel, j'ai l'impression, de vos lectures.
C'est toujours un livre en chantier.
En ce moment, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous lisez ?
Je le dis, Samouraï, de Fab Caro.
Oui, le dernier roman.
Qui m'amuse bien.
Voilà, je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs et voici une curiosité. L'aria Dax, composée pour Micheline Dax par William Scheller, air pour siffleuses et orchestres, qu'on les a entendus interpréter à l'Olympia. Il paraît que lorsque Scheller est entré sur scène avec la comédienne, les spectateurs ont ri en pensant qu'il s'agissait d'un sketch.
Ouais, et moi j'aime bien le mélange des genres et c'est tellement inattendu de voir Micheline Dax à côté de William Scheller. C'était sur un très beau disque et alors ça m'énerve parce que je suis abonné à Deezer. Je vous raconte ma vie. Et alors, on ne trouve pas l'aria Dax.
Oui.
C'est ravissant, c'est beau. Et puis, on ne les attendait pas là, l'un à côté de l'autre. Et c'était magnifique, quoi.
Bah, il est sur le. C'est, je le sais grâce à Arnaud Jamin, il est sur le disque live de Scheller Olympiade, sorti en 1995. Mais pas sur les versions des plateformes.
Mais non, c'est agaçant.
Ni sur les plus grands airs sifflés par Micheline Dax.
Non.
C'est un coup de gueule qu'on pousse en studio. Comment vous l'avez découvert, vous vous souvenez?
Oh, parce que j'avais le disque.
D'accord. Cette question, j'hésite toujours à la poser parce que souvent
ouais,
elle
c'était
est.
C'était les gens qui s'aiment. Je trouvais la plus belle chanson du monde. Parce que l'autre fois, Yolande Moreau tourne son troisième film. Et dans le casting, il y a William Scheller. Et elle m'a rappelé que je lui avais dit que c'était la plus belle chanson du monde, c'était les gens qui s'aiment. Je suis d'accord. Oui. En même temps, il y a plusieurs les plus belles chansons du monde.
C'est vrai. Dans les autres, on continue à parler de beauté, dans les autres jolies choses que vous recommandez aux auditeurs, François Morel, il y a les tableaux de l'artiste suisse Markus Retz, dont les œuvres jouent avec la perception, parfois le langage, en s'inspirant de ses écrivains favoris, notamment Laurent Stern, Robert Walser ou Raymond Roussel. Comment vous décririez son œuvre ?
Là aussi, c'est-à-dire, il nous met en scène. C'est ça qui est formidable, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, on voit des branchages, des trucs sur un mur blanc, on comprend rien, et on se met juste à un endroit précis, on regarde un miroir, et là, tout se réunit. C'est-à-dire que tous les branchages disparates qui étaient sur le mur, tout d'un coup, ça devient le profil d'une femme. Et c'est sublime. C'est-à-dire, il joue avec nous, avec notre perception. Et on s'amuse, quoi. Enfin, il y a un truc d'amusement extrêmement poétique.
Il y a le oui peut devenir un non, oui. Une tête chapeautée peut devenir un lapin.
Un chapeau peut devenir un lapin, un verre peut devenir une bouteille. Et voilà, ils s'amusent tout le temps avec notre regard, notre perception. Et on est bien dans ces œuvres-là. Et puis c'est très délicat. Il a fait des choses aussi, par exemple, sur du velours, où il dessine sur du velours. Donc on se dit, évidemment, on donne un coup de main et de là-dessus, et ça disparaît à jamais. Donc ça parle aussi des choses extrêmement éphémères et précieuses.
À la fin de l'émission, je demande un engagement à mes invités, un petit engagement. Et vous, François Morel, vous prenez l'engagement de ne pas prononcer le nom d'un homme ou d'une femme politique au cours de vos prochaines chroniques du vendredi matin sur France Inter, au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est donc un engagement de 3 semaines.
Oui, c'est ça, oui.
Parce qu'il y a les législatives le 12 et le 19 juin, donc il y aura la réserve. Le vendredi 24, peut-être que vous pourrez quand même prononcer un nom.
Non, parce que je trouve des fois c'est une solution de facilité, d'ironiser sur les hommes politiques. Alors de temps en temps, j'aimerais mieux faire des chroniques politiques sans citer les hommes politiques. Et de prendre un peu de distance par rapport à ça, quoi. Mais quand vous m'avez posé la question, j'ai répondu ça. Mais je suis pas sûr de mon engagement. C'est un engagement qui est pas énorme, mais je suis même pas sûr de le tenir.
Bah si vous êtes obligé, je crois, comme il y a les législatives le 19 et le 12.
Je suis obligé de ne rien faire, moi.
Si.
Oh, non.
Si parfois vous tombez sous le coup de la loi, François
Morel. Ah bon, on m'a rien dit et je fais mes chroniques en direct, alors bon.
Ah bah si on vous dit rien et que vous avez le direct en protection, moi c'est vraiment c'est... Tout est permis.
Tout va à volo alors.
On arrive à la fin de cette émission.
C'est pas vrai.
Si. Je sais, c'est triste.
Bah oui.
Je vais annoncer plein d'actualités dans le générique de fin.
D'accord.
Est-ce que vous voulez juste nous dire au revoir ?
Au revoir.
Il était absolument parfait, d'une grâce folle. Merci beaucoup François Morel d'être venu.
Merci.
Votre billet est diffusé sur France Inter tous les vendredis à 8h55 et vous êtes avec votre équipage. Pouvez-vous citer votre équipage ? Je vais parler.
Sûrement. Romain Lemire, Gérard Mordilla, ils sont en alternance, Antoine Salaire, Amos Ma et la merveilleuse Muriel Gastebois.
Bravo. Vous êtes avec eux sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour chanter Yves-Marie Le Guilvinec dans Tous les marins sont des chanteurs jusqu'au 3 juillet prochain. Vous chanterez des chansons à vous le 16 juillet aux Francofolies de La Rochelle. Un album, François Morel chante Yves-Marie Le Guilvinec, Tous les marins sont des chanteurs, est paru chez Little Big Music, et un livre chez Calman Lévy. Votre dernier recueil de chroniques publié chez De Noël s'appelle Ça va aller. Deux choses avec Yolande Moreau, du jeu dans son prochain film Même au milieu des ruines, et du chant sur l'album Brassens dans le texte. Cinéma encore, le prochain film de Michel Leclerc qui sort le 22 juin prochain sous le titre Les goûts et les couleurs.
Oh oui, ça va être bien ça. Et aussi le film de Noémie Lvovsky.
Ah oui,
incroyable.
Vous avez
tellement
le titre.
Beau scénario. Oui, la grande magie. C'est une adaptation de la pièce d'Eduardo de Filippo avec Podalides aussi.
Très beau titre. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur sera aussi victorieuse que celle d'une hostie reconvertie en agent d'assurance à succès. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.